C'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Claude qui en va à la présentation.
Bonsoir et bienvenue dans votre magazine d'actualité politique Dialogue entre Congolais, émission qui traite de lundi à vendredi l'actualité politique en RDC. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 mars 2009, deux thèmes dans l'émission de ce soir. D'abord, les tractations au sein des groupes parlementaires aussi bien de la majorité que de l'opposition pour le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Et dans notre second thème, nous parlerons du rejet par les conseils des droits des hommes de l'ONU de l'envoi d'un enquêteur spécial sur la situation des droits des hommes à l'est de la RDC, tel que proposé par l'Union européenne. Nous abordons ces thèmes avec trois invités. Martin Moukonkolé, député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire Ordre des démocrates républicains, ODR. Robin Minakou, député national de la majorité et vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Et maître Jean-Paul Lungu-Lungu, coordonnateur national de la plateforme Réseau d'Action Citoyenne pour la démocratie. Pour la démocratie politique, réunissant 65 ONG de la société civile du Nord Kivu, il intervient dans cette émission comme analyste politique. Et dans la deuxième partie, nous aurons avec nous le ministre Oufio, qui est ministre des Droits humains. Bienvenue.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Cela fait 5 jours depuis que Vital Kamerhe a démissionné de la présidence de l'Assemblée nationale. En attendant l'élection des nouveaux membres du bureau, les tractations vont bon train dans les différents groupes parlementaires en vue de proposer des candidats, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition parlementaire. Marie-Chantal Lumba, notre permanente à l'Assemblée nationale, s'y est penchée.
Dans la plupart des groupes parlementaires, l'heure est encore au toilettage de la liste des candidats. À l'instant, deux ou trois potentiels candidats figurent pour un poste. Selon certains rapporteurs de ces structures, les députés sont nommés ou élus selon la vision du groupe parlementaire, les compétences et les atouts qu'ils présentent. Par exemple, au sein du groupe parlementaire PPRD, les noms comme Nyabirungo Monesonga, celui de l'actuel secrétaire général du PPRD, Évariste Bouchard, sont cités pour la présidence. Le panou, quant à lui, viserait la vice-présidence, nous a confié un proche de ce groupe parlementaire. Du côté de l'opposition, si le MLC affirme pour l'instant ne pas faire partie de ce challenge, l'ODER, par exemple, prévoit de présenter des candidats à tous les postes avec comme potentiel candidat à la présidence Lisanga Bonganga. Toutefois, le nom de Thomas Louaka comme candidat à la vice-présidence, son mandat pour l'instant du MLC, circule dans l'hémicycle. Il faut souligner que toutes ces données peuvent changer. Il y a également des députés qui, sans vouloir présenter des candidats, attendent s'exprimer par les urnes. Ils s'étonnent de la lenteur dans ce processus. Seule la conférence des présidents, prévue au cours de la semaine, pourra déterminer la date de la prochaine plénière.
Merci beaucoup Marie-Chantal Lumba. Aubin Minakou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national de la majorité vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. D'après les informations que nous avons au niveau de la majorité, vous ne vous accordez toujours pas sur le futur remplaçant de Vital Kamerhe. Nos auditeurs veulent en savoir un peu plus.
Bon, je commencerai par dire que c'est faux et archi-faux. Il ne faut pas à tout moment rechercher les sensationnels. L'Assemblée nationale, c'est une institution capitale dans un état de droit. Donc, après la démission du président Vital Kamerhe et d'autres membres du bureau, il ne faudrait pas qu'il y ait des précipitations inconsidérées ni lenteur excessive. Selon le règlement intérieur, chaque député est en droit de se porter comme candidat. C'est tout à fait conforme au droit, au contrat qui nous lie, c'est-à-dire le règlement intérieur. Mais l'AMP, PALU, UDEMO, cette coalition est organisée, est ordonnée, et nous allons présenter un ticket des candidats AMP, PALU, UDEMO. Et pour présenter un ticket valable, il faut des concertations responsables. C'est ce qui est en train d'être fait au niveau de chaque parti politique. Ensuite, ça sera la mise en commun et de façon responsable, nous présenterons notre ticket. J'aimerais aussi rapidement relever que l'on a cité des candidats, notamment concernant mon parti politique, le PPRD. Là aussi, c'est faux et archi-faux. Évidemment, il y a de la rumeur, mais nous n'avons pas encore, au niveau du PPRD, présenté une liste des candidats pour n'importe quel poste. C'est encore de la rumeur et ça ne doit pas être considéré
comme... Mais qu'est-ce que vous attendez alors pour présenter cette liste, puisque les travaux à l'Assemblée nationale doivent débuter au regard de la tension sociale, la situation sociale des Congolais qui ne s'améliore toujours pas.
Oui, je venais de dire, il ne faut jamais se précipiter outre mesure, pas de sensationnel. Il faudrait que l'élection des membres du bureau se fasse de façon conforme au droit, et essentiellement du règlement intérieur. Donc il faudrait qu'il y ait une conférence des présidents qui se tienne, il faudrait qu'il y ait une plénière pour mettre sur pied le mécanisme pour voter les uns les autres de la présidence jusqu'au poste de questeur adjoint, et tout cela, ça peut nous prendre quelques jours, 2, 3, 4, 5 jours, ne nous précipitons pas du tout. Au niveau de l'AMP, les concertations se font de façon la plus responsable possible, ça évolue très bien, mais il ne faut pas, je le répète, pas du tout se précipiter.
Non, mais il y a tout de même des concertations qui ont lieu à l'hémicycle du Palais du Peuple. Bonsoir Martin Moukongolé.
Bonsoir Monsieur les journalistes.
Vous êtes de l'opposition, mais vous aussi dans l'opposition, vous êtes notamment député national, membre du groupe parlementaire Ordre des démocrates républicains ODR. Il semble que vous, dans l'opposition, vous êtes dans la course pour remplacer Vital Kamerhe ou bien même certains membres du bureau. Comment l'expliquer? D'abord, vous pouvez le confirmer?
Mais je vais le confirmer parce que nous sommes les respectueux des textes. Le règlement intérieur qui nous régit est clair à ce sujet. Il dit, pour être membre du bureau, je vais d'abord corriger là, ce n'est pas tout député qui peut être porté comme candidat au poste de membre du bureau. Le règlement intérieur est clair. Il faut soit vous déposer votre candidature individuellement. Là, il est question de ceux qui ont été élus comme des indépendants. Pour tous ceux qui ont été élus sur la liste des partis politiques, vous devez être présenté par votre groupe parlementaire. Ça, c'est l'article 24 du règlement intérieur. Donc, personne ne peut se prévaloir pour dire qu'il est candidat s'il a été élu sur la liste du parti, si son groupe parlementaire ne le présente pas. Et nous confirmons que le même règlement intérieur, dans son article 22, prévit que lors de la constitution du bureau de l'Assemblée nationale, on doit tenir compte des sensibilités, on doit tenir compte de la représentativité de toutes les sensibilités politiques au sein de l'Assemblée nationale.
Oui, c'est l'article 22.
C'est l'article 22. Et c'est comme ça que nous, au niveau de l'opposition, en tant que membres de cette institution, nous disons, nous ne voyons pas pourquoi on peut arriver à ne pas commencer par respecter notre règlement intérieur qui est le catéchisme que nous avons. Parce que la violation de ce règlement intérieur nous a amené à tout ce que nous avions aujourd'hui comme déboire, à tout ce que nous avons comme aujourd'hui mauvaise gestion au niveau du bureau. Donc ça, nous disons, il est tout à fait normal que nous respectons d'abord les textes. En respectant les textes, il n'y a pas une exclusivité qui doit être consacrée ou confirmée au niveau des ambitions des uns ou des autres au niveau des postes du bureau. Au niveau de l'ODR, l'option a été levée et je crois que nous avions dit qu'il y aura participation. Et cette participation, c'est une stratégie, on ne pourra pas la dévoiler tout de suite parce que nous attendons, nous sommes prêts, nous sommes en train de regretter pourquoi il n'y a pas plénière. Et vous avez entendu mon collègue Aubin, il vous dit que c'est... Il confirme que ce sont eux qui sont en train de faire traîner la convocation d'une plénière, parce qu'ils sont encore en concertation, parce qu'il est clair que la conférence des présidents, et c'est celle-là qui devrait, d'une manière ou d'une autre, déjà se prononcer.
Mais quels sont, vous êtes Martin Moukongolé, vous êtes de l'opposition, mais quelles sont vos chances à briguer des postes au sein du bureau dès lors que vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale?
Non, nous rappelons seulement au bon sens. Moi, je suis membre des bureaux d'une commission. Mais comment on peut expliquer qu'au niveau de la gestion des commissions permanentes, il y a l'opposition et la majorité? Mais quand il faut gérer les bureaux de l'Assemblée nationale, ils refusent, ils disent que ça c'est de leur monopole. Ça, c'est ça la tricherie, et c'est ça ce que nous estimons, que ce n'est pas bien le respect des textes.
Problème, il y a encore à répondre à cette question, mais vous n'êtes pas seul dans cette émission. Nous avons également en ligne, depuis Goma, au Nord Kivu, Maître Jean-Paul Lungu-Lungu. Bonsoir, Maître.
Bonsoir.
Vous êtes coordonnateur national de la plateforme Réseau d'Action Citoyenne pour la Démocratie Politique, réunissant 65 ONG de la société civile du Nord Kivu. Vous intervenez dans cette émission comme analyste politique. Comment analysez-vous les tractations à l'Assemblée nationale un bureau avec des membres de l'opposition, est-ce une alliance contre nature si c'est l'arrivée?
Permettez-moi tout d'abord de faire une petite correction. Il s'agit du réseau d'action citoyenne pour la démocratie, et non pas la démocratie politique.
Merci beaucoup.
C'est une plateforme, donc le RACID.
Allez-y.
Et j'interviens en tant qu'analyste constitutionnaliste. Bon, en fait, il faudrait reconnaître tout d'abord que la question du fonctionnement du bureau de l'Assemblée nationale est renvoyé par l'article 112 de la Constitution au règlement d'ordre intérieur. L'analyse du règlement d'ordre intérieur pose un certain nombre de principes, comme l'a évoqué l'honorable Martin de l'opposition, c'est que à différents niveaux de candidature au sein du bureau, c'est soit les indépendants qui peuvent présenter la candidature, ou soit encore le groupe parlementaire qui peut présenter la candidature dans différents postes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Mais il faudrait également reconnaître que si ces principes sont posés par le règlement de l'intérieur, la pratique l'a confirmé également, parce que nous l'avons vécu avec le bureau sortant. Il s'est agi plutôt de l'ANP qui a présenté ces différentes candidatures au niveau de différents postes du bureau de l'Assemblée nationale, et que donc nous pensons que cette pratique, qui est devenue une pratique parlementaire, à la limite deviendra peut-être plus tard une pratique constitutionnelle, va devoir se confirmer au niveau de candidatures que dans l'opposition que la majorité devra présenter à l'Assemblée nationale. Mais ce qu'il faudra aussi retenir, c'est que les dispositions de l'article 8 de la Constitution de notre pays donnent ouverture à l'opposition de participer également à la gestion des affaires de l'État, notamment au sein de l'Assemblée nationale. Et à ce titre-là, je crois qu'il est tout à fait normal qu'il y ait une forte agitation au sein de la majorité présidentielle, tout comme au sein de l'opposition politique, parce que les deux composantes ont l'obligation constitutionnelle de concourir à la gestion des institutions politiques.
Merci beaucoup, maître Jean-Paul Lumbulumbu. Je reviens à vous, au Bénin, que vous êtes également avocat. Ben, peut-être vous pouvez déjà répondre à la question qui a été posée par Martin Moukonkole, qui voulait savoir pourquoi, au niveau de l'ANP, vous accepteriez que l'opposition puisse avoir des postes au niveau des commissions permanentes et pas dans le bureau. Est-ce que vous êtes prêt à accepter des membres de l'opposition dans le bureau de l'Assemblée nationale?
Puisque nous sommes respectueux de la Constitution et du règlement intérieur, nous ne pouvons en aucun cas bloquer un seul membre de l'opposition qui se porterait candidat pour n'importe quel poste du bureau.
Mais dans le précédent bureau, il n'y avait aucun membre de l'opposition dans le précédent.
Il faut faire la...
Est-ce que votre position a changé? Vous êtes prêt aujourd'hui à accepter des membres de l'opposition dans le bureau de l'Assemblée nationale et non seulement dans des commissions permanentes de l'Assemblée nationale?
Nous n'avons pas changé notre position parce que nous n'avons jamais empêché l'opposition à participer au bureau. Il faut bien faire il faut bien faire la part de choses. Le premier principe constitutionnel d'ailleurs, le premier principe légal au regard du règlement intérieur, c'est que les membres de l'opposition, les non-inscrits, les indépendants, tout comme ceux des groupes parlementaires de la majorité, peuvent présenter leur candidature, évidemment par le biais de leur parti politique. Ça c'est de un. Mais il y a un autre principe, c'est que l'Assemblée nationale procède par vote secret. Donc nous aurons des candidats de l'opposition, c'est leur droit. Nous aurons des candidats de la majorité, c'est notre droit. Et puis les députés vont voter. Si les députés, les 500 députés membres de l'Assemblée nationale, à tous les niveaux, ne votent que les candidats AMP, c'est aussi un exercice démocratique. C'est là, il ne faut pas tromper la population. Les opposants vont aussi présenter leurs candidats. Le PPRD va présenter ses candidats. Mais le PPRD, faisant partie d'une coalition AMP Palou UDEMO, nous préférons souvent présenter un ticket. Mais cela n'est pas exclusif
de la présentation des candidatures de l'opposition.
Aubin Minako,
vous êtes clair, je crois.
Oui, c'est clair.
Vous êtes, vous voulez ajouter quelque chose?
Non, allez-y, allez-y.
Vous êtes la majorité présidentielle. Nous savons que l'AMP, c'est une alliance avec le PALU d'Antoine Gizenga et l'UDEMO de Nzanga Mobutu. Êtes-vous prêt au niveau de la majorité d'accepter que la présidence de l'Assemblée nationale soit occupée, par exemple, par un candidat du PALU ou de l'UDEMO?
La présidence du Sénat est aujourd'hui...
De l'Assemblée nationale.
Oui, oui, je réponds de cette façon. Aujourd'hui, la présidence du Sénat est occupée par qui? C'est pas par un membre de la majorité.
Mais c'est pas parce que vous l'aviez voulu au niveau de l'Assemblée nationale.
C'est parce que nous sommes respectueux de la démocratie. Il y a eu vote au Sénat. Le candidat de la majorité du PPRD, Sean Kitundu, a été battu par Léon Kengo. Aujourd'hui, Léon Kengo, c'est le président du Sénat qui est respecté par tous les députés de la majorité. Et donc, cette question-là, à mon sens, n'est pas opportune, parce que nous disons dès le départ que nous sommes respectueux des règles de démocratie. Étant respectueux, si au terme du scrutin, un des nôtres est battu au niveau du président, du poste du président de l'Assemblée nationale, ou questeur, ou que sais-je encore, nous allons respecter, parce que nous ne sommes pas là pour casser la démocratie, nous ne sommes pas là pour casser l'Assemblée nationale.
En d'autres termes, est-ce que le poste du président de l'Assemblée nationale est réservé au seul PPRD, ou ça peut également aujourd'hui être entre les mains du PALU, votre allié, ou de l'UDEMO de Nzanga Mobutu?
Bon, là, ça dépend de notre propre concertation au niveau de l'AMP, PALU UDEMO, mais sachez que le PPRD dispose de plus de 120 députés, et donc au sein de cette coalition, donc c'est pas négligé sur le plan politique, mais s'il arrivait qu'au terme des concertations, j'ai bien dit responsable, que l'on décide que le candidat au poste président de l'Assemblée nationale vienne du PALU ou de l'UDEMO ou d'un autre parti politique, pourquoi pas? Parce qu'une coalition, c'est une famille politique.
Merci beaucoup, Martin Moukonkole.
Vous avez senti que mon collègue a eu difficile à vous dire si réellement ils sont disposés pour que nous puissions occuper. Je les confirme parce qu'il est là, je connais. Il vous a parlé d'un ticket. Or, un ticket, ça viole d'abord même les principes au niveau du règlement intérieur.
Oh là là,
et il est en train de vous dire que l'AMP continue à se concerter. Or, l'AMP n'est pas un groupe parlementaire. J'aurais bien souhaité que j'entende que c'est le PPRD qui est un groupe parlementaire est en train de se concerter. J'aurais bien voulu comprendre qu'au niveau de l'AMP, tout ce qui constitue l'AMP ne constitue pas un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et ce n'est même pas légal. Bon, j'aurais souhaité que l'IDEMO, qui est dans un groupe parlementaire, que son groupe se concerte, les PALU aussi. Donc, vous comprenez qu'ici, il y a un problème. Et l'honorable Dina, vous venez de vous dire qu'ils accepteraient les résultats des votes, mais il ne vous a pas dit que c'est par intérêt de sauvegarder la démocratie que nous nous sommes mis d'accord pour dire, au niveau des commissions, nous devons faire un effort pour que la représentation des sensibilités politiques se fasse sentir au niveau des bureaux des commissions. Et la même question a été soulevée, même au niveau du bureau national. Mais parce qu'ils ne veulent pas de la démocratie, parce qu'ils ne veulent pas de la transparence, parce qu'ils ne veulent pas de la bonne gouvernance, c'est comme ça qu'ils estiment qu'ils doivent eux-mêmes rester à ce niveau-là. Vous n'avez qu'à voir ce que nous avons comme déboire.
Maintenant, Moukonkole, excusez-moi, vous êtes député national, membre de l'opposition. Nous avons également appris, selon certaines informations, qu'il y a eu une concertation entre vous, de l'opposition et la majorité, pour que vous puissiez, vous, au niveau de l'opposition, avoir droit à quelques postes au niveau de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée nationale, en échange de l'acceptation par vous, l'opposition, de la démission de Vital Kamerhe.
Vous savez, ça je vous dis, c'est faux et archi faux. Nous avons toujours été ceux qui soutiennent la légalité et le respect des textes. Nous avons fait rappeler aux amis de la majorité que les règlements intérieurs et la constitution nous imposent tous d'accepter une certaine représentativité par rapport aux différentes forces politiques qui existent au sein de la famille.
Et qu'est-ce que ça signifie?
C'est-à-dire
l'article 22 du règlement d'ordre intérieur.
C'est-à-dire au niveau de la constitution du bureau, si les 7 membres, il n'est pas exclu que ceux qui sont de la majorité puissent avoir 4 postes ou au plus 5 et que l'opposition se retrouve aussi parmi les membres du bureau. Ça, c'est constitutionnel, c'est réglementaire. Donc, si les amis aujourd'hui de la majorité veulent se cacher derrière cette explication que nous leur avons donnée, que nous devons tous respecter la constitution et le règlement intérieur, ça fera de la fierté de notre jeune démocratie. Nous n'avons jamais soutenu Kamerhe comme individu, mais nous avions soutenu Kamerhe comme président de l'institution, parce qu'un président de l'institution ne peut pas être démis en dehors de l'institution, en dehors de la paix. Donc, ça, nous n'avons jamais jamais fait ni des alliances, ni avec qui que ce soit, mais nous avons rappelé à l'opposition, nous avons rappelé seulement à la majorité qu'on respecte les textes, et c'est le débit de la sagesse, et c'est le débit de l'ouverture démocratique dans notre pays.
Et la majorité, brièvement, la majorité a accepté ce
que vous n'avez qu'à sentir. J'ai toujours beaucoup de considérations de l'honorable Omé Minago. C'est parmi des hommes qui réfléchissent très bien. Mais parce qu'il est à un certain moment obligé de subir la loi d'un mot d'ordre qu'on va lui donner. Il acceptera certaines choses, même sans le vouloir, pour respecter certaines choses.
Je vois l'honorable Minago contester hein, par des signes. On va lui donner la parole d'ici quelques temps. Nous avons également dans ce studio, dans cette émission, Maître Lumbu. Maître, je vais d'abord lire quelques réactions des auditeurs. Il y a Godefroy Zong de Guémena dans l'Équateur qui pense que les députés de l'AMP et de l'opposition ont tous un dénominateur commun, ils sont tous nationaux d'après lui, donc ils doivent privilégier l'intérêt commun par rapport aux intérêts personnels. Il y a aussi Alba qui, lui, étudiant en première licence droit à l'université de Kindu Maniema, qui souhaite que le nouveau bureau de l'Assemblée nationale soit formé par des membres de l'opposition pour permettre le contrôle des actions gouvernementales et sanctionner sévèrement la corruption et le détournement des fonds de l'État. Qu'est-ce que vous répondez à Alba qui souhaite que l'opposition occupe des postes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale pour mieux sanctionner le gouvernement?
Eh bien, écoutez, que le président de l'Assemblée nationale vienne de l'AMP ou bien qu'il vienne de l'opposition, tout ce qui intéresse les citoyens, c'est l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Je crois que ce qui est important à ce niveau, c'est que si c'est l'opposition ou l'AMP, qu'ils soient en mesure de choisir des responsables du bureau capables de conduire l'Assemblée nationale en respectant scrupuleusement la constitution de notre pays, en respectant scrupuleusement le règlement de l'intérieur de l'Assemblée nationale, que ce soit des hommes capables de pouvoir garantir la stabilité des institutions politiques de notre pays. C'est ça que nous voulons, c'est ça que les citoyens veulent pour le moment. Les discussions politiciennes autour de postes AMP opposition n'intéressent pas au plus grand point les citoyens dans les différents villages où nous sommes. Ce qui les intéresse, c'est que le nouveau bureau soit à mesure de conduire l'Assemblée nationale, que ce bureau soit à mesure de continuer le travail législatif amorcé par le bureau sortant, que le nouveau bureau soit à mesure de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais. Je crois que c'est cet auditeur qui vient d'envoyer son point de vue. Il n'a fait que transmettre le point de vue de la majorité des citoyens qui pensent que c'est cette question, cette querelle entre AMP et opposition autour des postes de bureau n'est pas si intéressante pour les populations.
Merci. Maître Jean-Paul Lumbu, vous êtes coordonnateur de la plateforme Réseau d'Action Citoyenne pour la Démocratie. J'espère que cette fois-ci, je vous ai bien présenté. Donc, vous intervenez comme analyste et vous avez dit que vous étiez aussi constitutionnaliste. Alors, comment interprétez-vous l'article 22 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que le bureau est constitué en s'efforçant de reproduire en son sein la configuration politique de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus?
Tout à fait. La disposition de l'article 22 du règlement intérieur, c'est comme je l'ai dit tantôt, donne ouverture à toutes les composantes, qu'il s'agisse de l'opposition politique, tout comme il s'agisse de la majorité présidentielle. Cette disposition donne ouverture à ces deux composantes de participer ensemble collectivement à la gestion des affaires au sein de cette institution. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que les votes secrets. Le vote est secret, ça c'est sûr, mais au moins il y a déjà une ouverture. Cette disposition parle de sensibilité. Parmi les sensibilités, on peut évoquer notamment la question de la géopolitique, ça c'est très très important au niveau de notre pays, vous connaissez les contextes dans lesquels nous vivons. Il faudrait également tenir compte de la représentativité de la femme. Nous clôturons aujourd'hui le mois de la femme. Il faudrait que dans cette tractation, que les différentes composantes ANP, opposition, tiennent compte également de cette donne la femme au sein du bureau de l'Assemblée nationale.
Merci.
Et donc, si le président de l'Assemblée nationale viendra du PPRD, de l'UDEMO, du PALU ou encore des indépendants, cela importe peu, mais au moins au niveau de la Constitution, en me référant aux dispositions de l'article 8 qui nous a donné l'avantage d'analyser la loi sur les statuts de l'opposition, au moins cette disposition donne ouverture à toutes les sensibilités. Il s'agit premièrement de l'opposition politique et deuxièmement de la majorité de pouvoir participer participer à la gestion des affaires.
Merci beaucoup. Nous n'avons plus beaucoup de temps, Maître Jean-Paul Lumbulumbu. On va conclure ce premier thème d'abord avec vous, Aubin Minakou. Je rappelle que vous êtes député national de la majorité et vice-président du groupe parlementaire du PPRD, le parti présidentiel à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi Maître Lumbulumbu qui estime que vos atermoiements au niveau de l'Assemblée nationale n'intéresse pas beaucoup le peuple qui souffre à l'intérieur du pays. D'abord, quel est le profil du prochain président de l'Assemblée nationale, d'après vous, en 30 secondes?
Bon, en 30 secondes, je dirais que le prochain président de l'Assemblée nationale devra d'abord être pétri de compétences. Ça, c'est des 1. Et deuxièmement, il faudrait qu'il sache respecter à la lettre le règlement intérieur, que nous ne puissions pas altérer les dispositions du règlement intérieur et que chaque jour qui passe à l'Assemblée nationale, ça soit le règne du règlement intérieur, tout simplement. Mais par rapport à ce qui a été dit par Maître Lumbulumbu,
rapidement,
j'en conviens, parce que quand je mets à la place des populations à Moussengibango, à Balaka, à Kipuko, etc., ils n'attendent pas nos débats sérieux ici. L'essentiel est de savoir que nous devons respecter la Constitution et le règlement intérieur. C'est cela un état de droit, c'est cela la démocratie. La Constitution et le règlement intérieur permet à tout parti politique, seul ou en coalition, de présenter des candidats.
Non, mais on a l'impression que vous tirez en longueur, ignorant les souffrances des populations qui sont
pour
à Walungu, à
Pweto,
au Bandundu, au Kasaï.
Bien évidemment, pour nous du PPRD, nous souhaitons que la plénière ait lieu le plus tôt possible, même dans les 24 heures, pour que nous sachions quelles sont les modalités pour l'élection des membres du bureau. C'est clair et net, on n'a pas de problème.
Mais c'est là les dépenses
de vous. Et l'opposition, au lieu de chercher à nous taxer d'antidémocrates, l'opposition devait plutôt mener une démarche politique si l'opposition tenait à avoir certains aménagements. Oui. Mais malgré cette démarche politique, nous devons respecter la Constitution, les règlements intérieurs, ce qui signifie que nous devons voter par un vote scrutin secret.
J'espère que ça va se faire le plus vite possible. Martin Moukonko, on va conclure ce premier thème avec vous en 30 secondes.
L'honorable Minago vient de parler que nous devons voter par le vote secret. Mais il est conscient, il sait qu'il menace les membres de l'AMP en leur disant « nous allons faire les comptages ». Mais ça, c'est connu.
Donc, ils n'ont pas besoin de faire quoi, concrètement, le comptage?
Un mot d'ordre donné, vous allez voter un candidat qu'on va vous imposer, malgré votre choix, à quelqu'un d'autre. Ça, c'est connu. Et on dit toujours, nous connaissons les nombres, on va voir combien de bulletins notre candidat ou notre ticket pourra avoir. Ça, c'est connu. Ce sont des choses... Voilà les gens qui tuent la démocratie. J'ai toujours souhaité qu'on soit démocrate. Et à ce moment-là, on laisse chacun exprimer son besoin. On laisse chacun. Parce que l'exemple qui venait d'être cité au Sénat,
rapidement,
c'est un exemple qui est très favorable pour nous, mais un mauvais souvenir pour eux.
On va conclure ce thème. Parce qu'on a un second thème. Il y a Jérôme Moulimbi, étudiant à l'Université de Kinshasa, qui estime que la Chambre basse doit être dirigée par l'opposition, parce que d'après lui, la majorité a déçu par le fait de ramener le pays dans la dictature de la Deuxième République. Edi Mwambaï de Kanangokasi Occidental, lui, par contre, pense que le bureau doit être composé des députés de l'AMP et de l'opposition. Un auditeur de Kisangani dans la province orientale estime pour sa part que l'AMP seule ne peut pas bien diriger le bureau, qu'elle cède la présidence de l'Assemblée nationale à l'opposition. Luc Banseka de Matungi à Kinshasa pose la question suivante: qui dirigera les élections des membres du bureau? Et Saint-Forien de Boutembo Nord-Kivu veut savoir si l'ancien président de l'Assemblée nationale peut encore se présenter comme candidat à sa propre succession comme indépendant. Et que dit le règlement? Aubin Minakou en 30 secondes.
Oui,
Vital Kamerhe peut se présenter comme indépendant?
Vital Kamerhe est jusqu'aujourd'hui membre du PPRD, membre fondateur du PPRD. Il est toujours soumis à la discipline du PPRD.
Merci beaucoup.
Rien d'autre à dire.
Merci. C'est par là qu'on va conclure notre premier thème. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU rejette l'envoi d'un enquêteur spécial sur la situation des droits de l'homme à l'est de la RDC, tel que proposé par l'Union européenne. C'est la deuxième partie de cette émission. Nous l'abordons avec trois invités. Je salue l'entrée du ministre des droits humains, Oupio Takoura. Bonsoir. Monsieur le ministre,
Bonsoir.
Vous vous ajoutez aux deux autres invités qui sont déjà ici, Martin Moukonkolé, député membre de l'opposition et du groupe parlementaire ODR, et Aubin Aminakou, député national de la majorité, vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Nous disons merci à Maître Lumbulumbu d'avoir participé à cette première partie de l'émission Dialogue entre Congolais et à la prochaine. Donc avant de poursuivre cette émission avec notre second thème, d'abord le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais, vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Comme nous vous le disions, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a rejeté vendredi dernier une proposition européenne d'envoyer un enquêteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo pour en savoir plus de détails avec notre confrère Pierrot et la Mégie.
La proposition de l'Union européenne présentée par le représentant allemand Konrad Max Schöringer accusait les forces de sécurité congolaises d'être impliquées dans des abus tels que des violences sexuelles et le recrutement d'enfants soldats et autres violations commises sur les populations civiles dans l'est du Congo. Dans cette demande, l'Union européenne a souhaité que les Nations Unies envoient à l'est de la RDC un enquêteur spécial pour faire la lumière et établir les responsabilités sur les crimes, viols et autres violations des droits de l'homme commis pendant les conflits armés dans cette partie du pays depuis maintenant près de 10 ans. Pour sa part, le ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement Lambert Mende, qui salue la décision du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, estime que la situation des droits de l'homme s'est beaucoup améliorée en RDC et qu'il n'est pas nécessaire d'y envoyer un enquêteur spécial. Ce rejet a provoqué la déception du côté des ONG de défense des droits de l'homme. Pour les réseaux nationaux des ONG des droits de l'homme de la RDC, la présence d'un organe indépendant chargé d'enquêter sur les droits de l'homme, notamment dans l'est de la RDC, aurait constitué un moyen influent sur le gouvernement congolais. Selon Floribert Chebeya, directeur exécutif de La Voix des Sans Voix, le gouvernement congolais manque de volonté politique pour améliorer la situation dans ce secteur.
Merci beaucoup, Pierrot et la Mégie. Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Voilà, vous êtes justement le ministre des droits humains du gouvernement central de la RDC. Votre commentaire par rapport à ce rejet de la demande de l'Union européenne d'avoir un enquêteur spécial sur la situation des droits de l'homme à l'est de la République démocratique du Congo.
Oui, je voudrais d'abord préciser que c'est un rapporteur spécial ou un expert indépendant, qui le mécanisme qui n'a pas été retenu par le Conseil des droits de l'homme, cela à la demande de notre gouvernement, parce qu'en fait, notre position en tant que gouvernement est demeurée constante à ce que notre collaboration avec les Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme est restée tout à fait positive, et que donc, étant donné l'amélioration constante et les engagements que nous avons pris à cet égard, il n'était pas tout à fait justifié ou opportun de remettre en surface un mécanisme qui avait déjà été aboli depuis la session de mars 2008 et qui était attendu au terme de la résolution 720, qu'une assistance technique et financière qui était mise en place devait être évaluée et que donc la collaboration qui existe si heureusement devait être poursuivie. Et donc c'est à ce titre que la résolution que nous, gouvernement congolais, nous avons proposé et qui a été endossé fort heureusement par le groupe africain, a été adopté, et j'aurais voulu, n'est-ce pas, que tous les défenseurs des droits de l'homme, les véritables défenseurs des droits de l'homme, s'imprègnent d'abord de l'économie de cette résolution et apprécient, n'est-ce pas, le mécanisme de collaboration qui y est contenu avant de faire un jugement qui me paraît tout à fait un jugement précipité.
Voilà, mais qu'est-ce que vous répondez à la Fédération internationale des droits de l'homme, c'est le ministre des droits humains, M. Oupio, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, qui a déploré lundi la faiblesse de la résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur les violations commises en RDC, qui a été adoptée vendredi à Genève. Cette résolution, d'après la FIDH, ne prévoit l'établissement d'aucun mécanisme en vue de renforcer le suivi par le Conseil de la situation des droits de l'homme
dans ce pays. Vous pensez que la situation des droits de l'homme en RDC s'est améliorée pour ne plus avoir, pour que nous n'ayons plus besoin d'un enquêteur spécial ou indépendant sur les droits de l'homme à l'est du pays?
Je voulais d'abord préciser que la résolution est intitulée comme suit « Situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo et renforcement de la coopération technique et des services consultatifs ». Cette résolution invite la communauté internationale, tenez-vous bien, de soutenir la mise en place du mécanisme local de coopération entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la section des droits de l'homme de la MONUC, organisme en fait appelé, structure appelée entité de liaison des droits de l'homme, qui existe d'une part, et la résolution demande à la communauté internationale de renforcer les diverses formes d'assistance demandées par notre pays. Et il est clair qu'il y a des problèmes. Et il est aussi clair que nous disposons d'un programme national de promotion et de protection des droits de l'homme.
Mais puisqu'il y a des problèmes, pourquoi ne pas admettre qu'il y a un enquêteur spécial des Nations Unies pour cela?
Attendons-nous bien. Nous ne sommes pas dans un paradis. Nous ne sommes pas le seul pays. Et nous reconnaissons que nous avons des problèmes. Et c'est pourquoi, justement, nous, en tant que gouvernement, nous sommes engagés à améliorer la situation. C'est pourquoi il existe des activistes des défenseurs des droits de l'homme.
Qui ont été arrêtés à Kinshasa dernièrement, la BSV et tous les marchés.
Je voudrais qu'on évite l'amalgame et qu'on évite de se prononcer sur des situations dont on ne connaît pas nécessairement le dessous des cartes.
Et torturé d'ailleurs.
Nous allons vérifier et nous prendre des mesures, étant donné d'ailleurs que nous sommes investis pour le cas précis. Mais je voudrais revenir au débat. Les mécanismes tels que celui de rapporteur spécial, expert indépendant. Ce sont des mécanismes prévus dans le cadre du Conseil des droits de l'homme. Et ils correspondent à un niveau donné. Et par rapport, n'est-ce pas, aux engagements de l'ONU, par rapport aux mécanismes que nous avons mis en place, nous avons un ministère des droits de l'homme, vous le savez très bien. Nous avons une entité de liaison des droits de l'homme. Nous avons une commission nationale des droits de l'homme qui sera recréée bientôt. Nous avons, au niveau de mon ministère, des divisions provincial de l'homme. Et que donc, la situation à l'Est, notamment aujourd'hui, qui a sensiblement évolué, et ce qui ne justifie donc pas la réinstauration d'un expert indépendant qui a été supprimé depuis une année. Voilà ce que nous avons dit à nos partenaires.
Monsieur le ministre, certains analystes politiques estiment que lorsque des groupes africains qui siègent au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU rejettent de telles propositions, c'est parce que dans la plupart des pays africains, on ne respecte pas les droits de l'homme.
Je ne voudrais pas vous suivre dans votre jugement, ça vous engage que vous. Je parle au nom de mon gouvernement, je parle de ce que je connais. L'action que nous avons menée, les améliorations qui sont palpables.
Lesquelles, par exemple?
La question, elle est celle-ci. Faut-il se limiter à des cas, bien sûr, avérés, n'est-ce pas, anormaux qui sont constatés? Ou faut-il voir les droits de l'homme dans leur globalité, dans leur universalité, dans leur indivisibilité, pour faire un jugement qui soit complet? Je vous dirais, par exemple, aujourd'hui, et j'aime toujours le dire, je le dis à Genève, lorsque nous parlons en tant que gouvernement des 5 chantiers de la République, mais vous savez que les 5 chantiers, justement, ont pour objectif d'assurer le droit à l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, n'est-ce pas là, pour un gouvernement, une manière concrète de réaliser ou d'assurer la jouissance des droits de l'homme? Et voilà, c'est en concret, n'est-ce pas?
Merci. On vous garde encore dans ce studio, Martin Moukonkolé. Votre réaction?
Non, mais j'ai beaucoup de considérations envers Excellence Opio. Nous avons l'habitude de l'appeler Excellence Honorable parce que
c'est un ancien député national.
Non, il n'est pas ancien, il est toujours.
Donc, on est plus qu'il est
aujourd'hui. Oui, mais vous avez senti que même lui-même en tant que ministre des droits humains, il a eu des difficultés pour vous dire pourquoi il y a cette coalition des groupes africains au niveau des Nations Unies. Il refuse d'accepter la présence d'un enquêteur spécial. Ça serait une bonne façon de les aider, enfin de les accompagner. Il venait de nous dire, même au sein de son ministère, il y a des choses qui ne sont pas encore faites, il y a des lois, il y a des commissions qui doivent être mises en place, afin de sécuriser ces réseaux de défense des droits de l'homme. Moi, je crois ici, ne nous voilons pas la face, les chefs africains n'ont pas encore intériorisé la facilité, l'acceptation des réseaux de défense des droits de l'homme qui peuvent les aider dans la matérialisation de ces défenses des droits de l'homme.
Donc vous êtes pour qu'il y ait un enquêteur spécial des droits de l'homme.
C'est tout à fait normal, ça va faciliter la tâche même au gouvernement. Pourquoi il se gêne pour qu'il y ait un enquêteur spécial? S'il peut venir pour compléter l'action du gouvernement. La preuve en est que la résolution qu'on est en train de nommer, c'est un groupe de chefs africains qui se retrouvent au niveau des Nations Unies qui se sont coalisés pour dire non. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent un peu mal à l'aise, parce qu'en instaurant ce système, c'est vrai, ce n'est pas une façon de nous considérer comme étant une colonie parce qu'on doit venir contre tout ce que nous sommes en train de faire. C'est parce que c'est la transparence, c'est la bonne gouvernance, c'est la démocratie. On a besoin, et si tous les cas qui ont été évoqués, il y a plusieurs violations des droits de l'homme. Il y a eu beaucoup de recrutements de jeunes dans l'armée. Il y a beaucoup d'autres violences qui ont été commises à l'est de la République et aussi dans d'autres pays africains, au Soudan, ailleurs. Si on est en train de craindre ça, c'est avec peur de dire, en ouvrant cette brèche avec la situation ici chez nous, et tous ces autres pays africains seront aussi suivis dans ce sens-là.
Merci, Aubin Minako. Vous êtes de la majorité.
Merci. Je voudrais plus vous parler en tant que expert en la matière, parce qu'en 1999, j'étais conseiller juridique du ministre des Droits humains, Choki Tundu. Donc j'ai eu à faire 3-4 missions à Genève dans le même cadre, lorsqu'on parlait encore de la Commission des droits de l'homme. Les critiques, c'est parce que l'on ne comprend pas les mécanismes de fonctionnement des structures des droits de l'homme au sein du système onusien. D'abord, le système onusien fonctionne comme suit en matière de droits de l'homme. Lorsque un État est au point zéro en matière de violation des droits de l'homme, les Nations Unies interviennent à 100. Quand l'État renforce ses capacités, arrive au point 10, les Nations Unies baissent leur intervention à 90.
Vous voulez dire par là que la situation s'est améliorée en République démocratique,
voilà. Au point de ne plus avoir besoin d'un enquêteur. Et cela est apprécié par des organes crédibles. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, c'est un organe crédible qui est en soi le creuset où se retrouvent toutes les ONG dont vous parlez, dont le FIDH. Et ce Conseil des droits de l'homme, structure crédible au sommet de la pyramide dans le système des Nations Unies, a estimé qu'une année après avoir supprimé le poste de rapporteur spécial, il n'était pas indiqué de désigner un enquêteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Congo.
Mais comment expliquer que...
Au Congo, comme en France, comme au Rwanda, comme au Burundi, comme au Congo-Brazzaville, comme dans d'autres cieux, il y a des violations des droits de l'homme. Mais le problème, c'est de voir si l'État concerné a des capacités, a amélioré ses capacités structurelles pour améliorer la problématique de la promotion et de la protection des droits de l'homme.
Est-ce que notre État a amélioré ses capacités
Parce que les violations, aussi bien à l'Est du pays qu'à l'Ouest, elles continuent, ces violations.
Oui, les violations à l'Est comme à l'Ouest continuent au Congo. État en guerre, État post-guerre, comme dans d'autres cieux, mais réellement notre État a amélioré ses mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme. Enfin,
oui,
je voudrais dire, puisqu'on a beaucoup stigmatisé les États africains, mais au Conseil des droits de l'homme, tous les projets de résolution passent par les groupes régionaux. Okay. Avant de passer à la plénière.
On va laisser le ministre conclure, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, je suis heureux de vous dire que le Conseil des droits de l'homme a pris bonne note de progrès accompli. Ouais. Il a pris bonne note également des mécanismes qui existent.
Et donc, à l'heure actuelle,
sur le plan législatif, sur le plan normatif, et que donc aujourd'hui nous nous engageons et nous continuons à coopérer avec le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme, à l'EDC, qui est le mécanisme sur le terrain avec lequel nous allons travailler en toute transparence et nous rendre compte, n'est-ce pas, aux organes de traité comme il se doit.
Je voulais demander à M. le ministre, puisque vous parlez d'amélioration de la situation des droits de l'homme, dans quel domaine précisément y a-t-il eu amélioration?
La liberté d'expression, la liberté d'association, n'est-ce pas?
Mais
c'est évident, comme vous le répétez toujours.
Mais quand on arrête les activistes des droits de l'homme,
ils sont libérés, n'est-ce pas? Ils sont libérés.
Mais après d'avoir été torturés.
Ce n'est pas évident, vous l'affirmez, apportez-moi la preuve et moi je vais vérifier, n'est-ce pas?
Voilà.
Vous direz quoi?
Merci beaucoup, c'est par vos propos, M. le ministre, que nous mettons
un point final à cette émission. La réalisation a été assurée ce soir par Guy Maté, aidé par Céline Couté, Alain Hirung, Pierrot et Lamégie. Merci à toute l'équipe de Dialogue en Congolais qui nous a préparé cette émission, ainsi qu'à nos invités. Je vous dis bonsoir au nom de toute cette équipe de Dialogue entre Congolais. Je n'oublie pas que la technique était assurée par Alain Hirung. Au revoir et à demain.
Okapi, okapi.